VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Nathalie Barge. Au sommaire de cette édition du 1er juin 2017, Donald Trump va annoncer d'un moment à l'autre le retrait ou pas des États-Unis du traité de Paris sur le climat. François Olenga, général en charge de la garde rapprochée de Joseph Kabila, frappé de sanctions par Washington. Au Niger, opération de ratissage près de la frontière malienne après la mort de 6 soldats dans une attaque à Abala. 200 ONG appellent le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à enquêter sur les violences au Kassai en RDC. Kaboul encore plongé dans la stupeur au lendemain de l'attaque ayant fait plus de 90 morts. Les États-Unis ont placé ce jeudi sur leur liste noire financière le général en charge de la garde rapprochée du président de la RDC, Joseph Kabila, pour ses entraves au processus démocratique dans le pays. François Olenga, qui supervise notamment la garde républicaine, est accusé par Washington d'avoir sapé le processus démocratique dans le pays, plongé dans la crise depuis le maintien au pouvoir de M. Kabila après l'expiration de son mandat en décembre. Fin décembre, 9 hauts responsables de l'appareil sécuritaire congolais avaient déjà été sanctionnés par Bruxelles et Washington. Et tout récemment, l'Union européenne a également prononcé des sanctions contre certains responsables congolais. 6 soldats ont été tués hier soir au Niger lors d'une attaque des islamistes armés à Abala, dans la région de Tillaberi, près de la frontière malienne. Jacques Aristide.
Ce sont des hommes lourdement armés venus à bord de 14 voitures tout terrain qui ont attaqué la position militaire dans cette ville. Des combats étaient toujours en cours ce jeudi dans l'après-midi entre des djihadistes présumés et les troupes nigériennes. Des avions militaires sont engagés dans les opérations de ratissage et de poursuite. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a assisté ce matin à Abala à l'enterrement des victimes. Il s'agit de 4 membres de la garde nationale et 2 gendarmes. La ville abrite un camp de réfugiés maliens et fait partie des zones de Tillaberi et Tawa que Niamey a placé en mars dernier sous état d'urgence en raison d'attaques récurrentes. La semaine dernière, 2 policiers et 1 civil ont été tués dans une attaque contre un poste de police. Les autorités ont récemment fermé 10 de marchés ruraux et interdit la circulation de voitures et motos dans ces régions proches du Mali et du Burkina, pour empêcher les infiltrations des terroristes.
Toujours au Niger, au moins 44 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert dans la région d'Agadez. Cette zone du nord du pays est une plaque tournante du trafic d'êtres humains. Voulant quitter l'Afrique pour lutter contre les trafiquants, une loi a été votée en 2015, rendant leurs crimes passibles de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Au Mali, plusieurs soldats français ont été blessés, dont 1 grièvement ce jeudi à Tombouctou, dans une attaque au mortier contre le camp de l'ONU, a annoncé l'état-major français. Les blessés ont été pris en charge par les structures médicales de la MINUSMA et de la force Barkhane, toutes 2 stationnées à l'aéroport de Tombouctou. Le chef de la police sud-africaine, Komotso Falan, visé par une enquête pour corruption, a été relevé de ses fonctions et immédiatement remplacé, a annoncé le ministre de la police, Fikile Mabula. Il est remplacé par Lesesa Motiba, qui a notamment dirigé la police de la province du Gauteng par le passé. Plusieurs ONG congolaises et internationales ont appelé ce jeudi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à lancer une enquête sur les violences meurtrières commises depuis septembre au Kassai en RDC. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies devrait d'urgence établir une commission d'enquête sur la situation dans la région centrale du Kassai, écrivent dans un communiqué plus de 200 organisations dont Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l'homme. En Égypte, 3 officiers et 1 soldat ont été tués mercredi par l'explosion d'une veste piégée laissée par des combattants dans le désert du Sinaï, a indiqué l'armée dans un communiqué. La mort des 4 militaires est intervenue quelques jours après l'embuscade revendiquée par le groupe État islamique, ayant coûté la vie à 29 chrétiens dans le centre du pays. Quatre personnes ont été arrêtées et déférées au Sénégal à la suite de la diffusion d'une image sur les réseaux sociaux jugée offensante pour le président Macky Sall. Une journaliste de télévision privée locale, un commerçant et un artiste font partie des personnes arrêtées selon les médias sénégalais. La police de Zanzibar a arrêté un jeune homme soupçonné d'être l'auteur d'une attaque au couteau ayant fait plusieurs blessés, dont quatre touristes étrangers dans un restaurant de l'archipel tanzanien, ont annoncé les autorités. Après avoir fait irruption dans le restaurant, l'assaillant avait poignardé six personnes, dont un Français blessé au visage qui est toujours à l'hôpital. Quatre Tunisiens ont été condamnés à un mois de prison pour outrage public à la pudeur après avoir mangé dans un jardin public pendant le Ramadan à Bizerte. Cette condamnation intervient alors qu'un collectif d'ONG a appelé les autorités à respecter leur devoir constitutionnel de garantir la liberté de conscience et qu'un appel à manifester le 11 juin a été lancé pour réclamer le respect des libertés individuelles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain de l'attentat qui a fait 90 morts en Afghanistan, Kaboul est encore plongé dans la stupeur. Jusqu'ici, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Le point avec Eki Abadou.
Plusieurs groupes sont susceptibles d'être les auteurs. Les talibans nient toute implication. Des djihadistes pakistanais présents sur le territoire afghan, dont les talibans pakistanais Laskar el-Taiba et Harkat ul-Mujahideen sont jusque-là restés silencieux. Le groupe État islamique est présent, composé essentiellement d'ex-talibans ou d'anciens combattants d'Al-Qaïda, mais aucun de ces groupes n'a ouvertement ni implicitement revendiqué l'attentat de Kaboul. L'explosion d'un camion piégé hier matin a fait plus de 90 morts et au moins 320 blessés en ce mois de Ramadan. Au lendemain de cette attaque meurtrière, Kaboul est toujours plongé dans la stupeur. Cette fois-ci, les auteurs ont réussi à pénétrer dans le quartier le plus sécurisé de la capitale afghane, nommé Zone Verte, qui abrite ambassades, ministères et palais présidentiels.
Les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre des fournisseurs du programme d'armement de la Corée du Nord. Ces sanctions visent la société russe Ardis Bearings et son directeur Igor Michourine, qui approvisionne l'entreprise nord-coréenne Tangun, déjà sanctionnée en 2009 pour son implication dans les programmes d'armement de Pyongyang. La société pétrolière russe Independent Petroleum Company est aussi visée, ainsi qu'une de ses filiales. Le président américain Donald Trump a renoncé pour l'instant à transférer l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem, a annoncé la Maison-Blanche. Le point avec John Lyndon.
Donald Trump a signé une clause dérogatoire ordonnant de conserver l'ambassade américaine à Tel Aviv pour 6 mois supplémentaires. Tous les présidents américains depuis la fin des années 90 ont signé cette dérogation de 6 mois. Le président Trump a pris cette décision pour maximiser les chances de négocier un accord entre Israël et les Palestiniens, a expliqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Donald Trump a plusieurs fois fait part de son intention de déménager l'ambassade, mais il n'a jamais avancé de date. Les Palestiniens, des dirigeants arabes et même l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry ont mis en garde contre le risque d'explosion de violence si l'ambassade américaine était transférée à Jérusalem.
Et les Palestiniens ont salué la décision de Donald Trump, tandis qu'Israël s'est déclaré déçu, tout en disant apprécier son engagement à déménager l'ambassade à l'avenir. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre des fournisseurs du programme d'armement de la Corée du Nord. Ces sanctions visent la société russe Ardis Bearings. Une gigantesque explosion a secoué ce jeudi la ville chiite de Qatif dans l'est de l'Arabie Saoudite, cible d'attentats meurtriers revendiqués par le groupe État islamique, a indiqué un témoin. Aucune indication officielle n'a été donnée dans l'immédiat sur l'origine de l'explosion ou sur d'éventuelles victimes. Et le président des États-Unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Donald Trump est en train de se prononcer à savoir si les États-Unis vont quitter ou pas l'accord de Paris sur le climat. 195 pays signataires sont signataires de ce texte historique. En campagne, Monsieur Trump avait promis d'abandonner le document au nom de la défense des emplois américains, mais de nombreuses voix sur la scène internationale, notamment la Chine et l'Union européenne, dans le monde des affaires et au sein même de son administration, l'avait appelé à revoir sa position, tout en rappelant ces derniers jours qu'il était urgent d'agir face au réchauffement en cours. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Tchad, 12 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État en guise de subvention à la Coton Tchad Société Nouvelle. Selon APA News, 9 milliards seront versés aux cotoculteurs pour la campagne de l'année dernière et le reste sera injecté dans la commercialisation du coton pour cette année. Principal acheteur du coton dans le sud du pays, Coton Tchad Société Nouvelle s'était vu refuser un crédit auprès du pool bancaire qui finance chaque année la campagne agricole à cause d'impayés estimés à 30 milliards de francs CFA. Corridor Yaoundé-Brazzaville, le Japon vient de débloquer 33 milliards de francs CFA pour la dernière phase des travaux. Louis-Paul Motazé, le ministre camerounais de l'économie, a signé hier le prêt concessionnel. Le coût total du projet est de près de 105 milliards de francs CFA, cofinancé notamment par le Cameroun à hauteur de 14 milliards et de la BAD pour 40 milliards. Un projet pilote sur la gouvernance foncière inclusive a été expérimenté avec succès en Côte d'Ivoire. Mené par le CERAP et l'animation rurale de Korogo, ce projet est axé sur la résolution durable des conflits fonciers entre les communautés rurales et la sécurisation du foncier.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Coupe du monde des moins de 20 ans, fin de parcours pour le Sénégal.
Une défaite 1-0 en toute fin de match face au Mexique en 8e de finale. Il s'agissait d'une opposition entre les deux plus mauvaises attaques parmi les pays qualifiés pour le second tour. Un match terne où les Lyonceaux ont joué à 10 après le carton rouge reçu par Alioune Gay et les Aztèques accentuaient encore leur domination stérile jusqu'à la 89e minute et le jaillissement victorieux de Ronaldo Cisneros. Qualification également des Américains pour les quarts de finale après la gifle infligée aux Néo-Zélandais 6-0. Dans le duel européen de la journée, l'Italie s'impose 2-1 contre la France. Les Italiens rencontreront la Zambie en quart de finale. On rappelle que la Zambie est le dernier représentant africain encore en lice dans cette compétition.
L'heure des choix pour le nouveau sélectionneur algérien.
Quelques semaines après sa nomination au poste de sélectionneur de l'Algérie, Lucas Alcaraz a communiqué une liste de 25 joueurs retenus pour le match amical contre la Guinée et la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Togo. Absent de la CAN 2017 au Gabon, Karl Medjani et Sofiane Feghouli font leur grand retour au même titre que Mehdi Zéphane, disparu de la circulation depuis plusieurs mois et qui n'a joué qu'un seul match en Ligue 1 cette saison avec Rennes. La principale nouveauté de cette liste, c'est la première convocation d'Ilyes Hassani, le défenseur de Vereya en Bulgarie.
Un gros transfert en Angleterre.
Le Benfica Lisbonne et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert du gardien brésilien Ederson Moraes qui rejoindra l'équipe de Pep Guardiola pour 40 millions d'euros. Le montant de l'opération fait de ce joueur de 23 ans le gardien le plus cher de l'histoire après Gianluigi Buffon, acheté par la Juventus Turin à Parme en 2001 pour un peu plus de 52 millions d'euros.
Et la vidéo plébiscitée par la FIFA ?
L'arbitrage vidéo que la FIFA espère introduire lors du Mondial 2018 est bon pour l'honnêteté dans le football. C'est ce qu'a estimé l'ancien joueur Marco Van Basten, qui est le responsable du développement technique de l'instance. Le board a autorisé en mars 2016 l'arbitrage vidéo à titre expérimental et doit se prononcer sur son adoption définitive en mars prochain. Mais en avril déjà, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a assuré que cette nouvelle technologie serait utilisée lors du Mondial 2018 car, je cite, « nous n'avons que des retours très positifs ».
On termine par le grand rendez-vous NBA, c'est ce soir, Nicolas.
La grande finale entre Golden State et Cleveland, ce sera ce soir, premier match en Californie. Cleveland champion en titre contre les Warriors champions 2015, Stephen Curry contre LeBron James. Ce sont les duels à suivre ce soir.
Merci beaucoup, Nicolas, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. Cette seconde partie sera consacrée à une émission spéciale étant donné l'annonce de Donald Trump. Sans grande surprise, le président américain Donald Trump vient tout juste d'annoncer en effet le retrait des États-Unis du traité de Paris sur le climat. Avec moi dans le studio, Timothée Donangmaï. Timothée, qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici du discours de Donald Trump qui est encore en cours?
Alors, Nathalie, Donald Trump a dit que pour honorer ses promesses faites aux Américains durant la campagne électorale, il retire immédiatement les États-Unis de l'accord de Paris. Mais en même temps, il a ajouté, et nous allons immédiatement entamer des négociations pour éventuellement retourner à l'accord de Paris sous des conditions plus favorables aux Américains, ou alors entrer dans un autre accord qui pourrait peut-être jouer le même rôle, mais il voudrait que l'Amérique y retourne vraiment dans des conditions qui lui soient très favorables. Il dit qu'en ce moment, l'accord de Paris sur le climat est surtout à l'avantage des autres pays, des pays concurrents, qui profitent de cet accord pour prendre avantage des États-Unis. Et il estime que cet accord impose beaucoup de restrictions aux économies, aux industries américaines, aux activités économiques ici aux États-Unis. Et il pense que ce n'est pas bon pour la vie économique du pays. C'est pas bon pour les Américains qui perdent des emplois avec des usines qui, selon lui, ferment à cause de ces restrictions très strictes de l'accord sur le climat. Donc, il a donc dit qu'il faut faire quelque chose. Alors, nous écoutons Donald Trump.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Voilà, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat, a dit le président Donald Trump tout à l'heure à la Maison-Blanche.
Alors, on dit sans grande surprise, n'est-ce pas? On n'est pas surpris par cette annonce. Mais cependant, c'est un choc international.
Et tout à fait. C'est un choc international. Jusqu'à la dernière minute, plusieurs pays, notamment les pays scandinaves, ont tenté de persuader le président américain de revenir sur sa décision. On a eu, ici aux États-Unis, une grande mobilisation des plus grandes compagnies américaines, y compris les compagnies d'énergie comme Exxon, comme Chevron, qui ont dit que c'est l'avenir pour les États-Unis, c'est de s'engager dans les énergies renouvelables et que ce n'était pas une bonne idée de se retirer de l'accord de Paris. Rien n'y a fait. Le président Trump a décidé que les États-Unis vont s'en retirer.
Donc il faut s'attendre à des négociations maintenant très serrées au plan international.
Et tout à fait. Et tout à fait. Et comme vous le savez, le président Trump est avant tout un homme d'affaires. Mmh. Et dans tout ce qu'il fait, il est persuadé qu'il peut toujours négocier de meilleures conditions. Donc c'est le cas ici aussi. Avec l'accord de Paris, il pense qu'il peut amener les États-Unis, amener les autres pays à faire des concessions aux États-Unis et ainsi à négocier des termes plus favorables que ceux qui ont été obtenus par la précédente administration.
Alors nous avons en ligne un spécialiste, un expert en environnement de Greenpeace Canada. C'est Monsieur Bonnet, Monsieur Patrick Bonnet de Montréal. Comment allez-vous, Monsieur Bonnet?
Je vais bien, vous?
Ça va très bien, merci. Alors, votre réaction par rapport à cette annonce toute nouvelle de Donald Trump?
Ben, c'est certain que M. Trump, au lieu de montrer l'exemple, là, décide d'aller complètement à contresens de ce qui se fait au niveau de la planète. On a près de 200 pays qui ont signé l'accord de Paris. Il y a une panoplie d'aberrations et de mensonges qui ont été dits par M. Trump. C'est exactement le contraire. En fait, au lieu de se tourner vers l'avenir, les États-Unis se recroquevillent sur eux-mêmes, seront de plus en plus isolés. C'est une décision complètement immorale, complètement inacceptable, qu'il a présentée sous un angle de vouloir renégocier parce que l'environnement lui tient à cœur. Mais on le sait très bien, l'influence des pétrolières, entre autres, vient de faire bouger les États-Unis. On vient de perdre un joueur important, une locomotive dont on avait besoin. Il faudra que les autres pays en fassent davantage pour compenser ça. Donc, ce n'est pas une nouvelle surprenante, c'est une nouvelle décevante, évidemment, mais M. Trump ne réussira pas à arrêter cette transition énergétique qui a cours, ne réussira pas à saboter l'accord de Paris et les autres pays vont continuer.
Est-ce que cette annonce veut dire pour vous, militants de Greenpeace, plus de militantisme justement pour parvenir à faire entendre votre voix?
Ben, non seulement de la part de Greenpeace, il est certain que quand le président des États-Unis délaisse dans le fond la communauté internationale, les pays les plus vulnérables, nous allons remonter aux barricades. Et on l'a vu aujourd'hui avec l'Europe et la Chine qui ont dit eux-mêmes qu'ils allaient continuer pour s'assurer que l'accord de Paris rentre en vigueur, qu'ils allaient redoubler d'ardeur, renforcer leur collaboration. Et c'est ce dont on va avoir besoin au niveau international. Et il n'y a que les États-Unis qui ont dit qu'ils se retiraient. Tous les autres pays sont là. L'urgence est plus grande que jamais. Et il est certain qu'on va prendre tous les moyens pour arriver à faire en sorte que les pays, l'ensemble des pays soient responsables face à la crise climatique. Et ce n'est pas M. Trump qui va arrêter ça. Il y a des pays, les États, les villes qui sont là, qui continuent à lutter contre les changements climatiques. Et M. Trump s'isole aujourd'hui.
M. Bonnet et Timothée Dounangma, ici à Washington, le président Trump a déclaré tout à l'heure que les États-Unis ont les plus grandes réserves énergétiques au monde et que cela ne fait pas de sens de ne pas les utiliser sous prétexte de respecter l'accord de Paris. Qu'en dites-vous?
Quand on regarde la réalité maintenant au niveau des États-Unis, il se crée plus d'emplois dans le solaire que dans la production pétrolière, gazière et charbonnière mis ensemble. On a une réalité où le prix des véhicules électriques est en chute vertigineuse. Même chose au niveau de la production du solaire. C'est moins cher de produire de l'électricité à partir du solaire qu'à partir du charbon maintenant au niveau international. Donc, M. Trump s'accroche à une économie qui n'existe plus. L'économie des combustibles fossiles est en train de disparaître. Même les manufacturiers de véhicules reconnaissent que d'ici à peine quelques années, le prix des véhicules électriques sera plus compétitif. Et ce qu'on voit comme croissance au niveau des États-Unis, quand on regarde, il y a près de 1000 chefs de compagnies aux États-Unis qui ont demandé, des investisseurs qui ont demandé à M. Trump de rester dans l'accord de Paris. On voit que le gros de la croissance, en fait, il se crée 12 fois plus de jobs, d'emplois dans le solaire et dans l'industrie éolienne que dans le reste de l'économie quand on regarde, quand on compare. Donc, c'est certain que M. Trump est en train de tourner le dos à l'économie, non, pas seulement de l'avenir, mais qui est déjà en place. Et tout l'argumentaire qu'il tient actuellement repose sur, encore une fois, des faits alternatifs, comme on le connaît bien au niveau du président américain.
Le président américain dit qu'il retire son pays de l'accord de Paris, mais qu'il va immédiatement entamer des négociations pour y rentrer sous des termes qui seront plus favorables aux États-Unis.
Écoutez, il faudra voir avec quel pays il va pouvoir négocier, parce qu'il n'y a que la Syrie et le Nicaragua qui ne sont pas dans l'accord de Paris. Tous les autres pays, à commencer par l'Union européenne et la Chine, ont réitéré leurs engagements dans l'accord de Paris. La Russie est sortie également aujourd'hui. Donc, les États-Unis, s'ils pensent vouloir renégocier une entente qui... Il n'y a personne qui est satisfait avec l'accord de Paris. Quand on regarde l'ensemble des pays, chaque pays voudrait qu'il y ait des choses meilleures dans l'entente de Paris. Mais c'est un compromis compagnie internationale dont on a absolument besoin. Et M. Trump débarque avec ses grosses bottes et pense qu'il peut faire virer complètement l'humanité d'un coup. Eh bien, ce qui va se produire, c'est qu'il sera isolé et que les autres pays vont saisir ces emplois-là, vont saisir les opportunités d'affaires que les États-Unis sont en train littéralement d'abandonner. Et ça, ben, ça va se faire sur le dos des travailleurs parce qu'on le sait maintenant, ce n'est plus la même économie qu'on avait avant. Il y a une urgence d'agir. La Chine est en train de ravir à plusieurs égards, que ce soit au niveau de la fabrication des batteries, que ce soit au niveau de l'éolien et du solaire, des emplois aux États-Unis parce qu'eux, ils se concentrent maintenant à fermer des centrales au charbon et n'ont pas en ouvrir.
Monsieur Bonnet, une dernière question très rapidement. L'on sait que ce retrait ne pourra être effectif seulement en 2020. Qu'est-ce que cela implique, en fait, pour les États-Unis au niveau responsabilité jusqu'à cette date, très rapidement?
Ben, on le sait, les États-Unis vont vouloir en faire le moins possible, relancer exploration comme ils l'ont fait, pétrolière, gazière et charbonnière. Il faudra voir ce qui va arriver parce qu'on parle d'une sortie en 2020. Il risque d'y avoir une autre administration en place d'ici là. Donc, M. Trump trouvera prétexte pour ne rien faire, essentiellement dans la lutte contre les changements climatiques, conseillé par ses proches conseillers, un petit peu trop près, beaucoup trop près, en fait, de l'industrie pétrolière.
Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Nous avons justement en ligne l'ancien ministre de l'Environnement du Sénégal, Ali Haïdar, qui voudrait donc nous faire part de sa réaction. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour, la voix de l'Amérique. Moi, je ne suis plus ministre, donc... Bon, moi, ce qui me préoccupe, c'est sûr que l'Amérique n'a jamais, enfin, en tout cas, n'est pas rentrée dans les préoccupations environnementales de la planète. Donc, si elle en sort, elle n'est jamais rentrée dedans. Ça va. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on reste très prudent parce que pour respecter les accords de Paris, on a mis à peu près 30 ans pour avoir ces accords-là. Et voilà qu'en 5 minutes, on en sort. Mais en tout cas, pour les respecter, cela nécessite des contraintes économiques très importantes. Et si l'Amérique en sort, cela veut dire qu'elle va avoir un avantage économique par rapport.
Ah, la ligne est trop mauvaise, je suis vraiment désolée. On va essayer de recontacter Ali Haïdar. Timothée, vous aviez quelque chose à ajouter?
Oui, alors Nathalie, le président Trump avait quelques chiffres aussi pour étayer son propos d'il y a un moment. Il dit par exemple que selon certaines projections, d'ici à l'année 2040, la mise en œuvre de l'accord de Paris ici aux États-Unis va se traduire par les baisses de production suivantes, 20% de l'industrie du papier, 23% du ciment, 38% pour la sidérurgie, 86% pour le charbon. Il dit que toutes ces pertes, ces réductions de production et ces pertes d'emplois seront les conséquences directes de l'accord de Paris si les États-Unis les mettaient en œuvre d'ici l'année 2040. Il a aussi parlé d'un coût de l'impact économique. Il a parlé de 3 000 milliards de baisse du PIB, 3 000 milliards de dollars donc de baisse du PIB ici aux États-Unis, qui serait le coût de l'application de l'accord de Paris ici aux États-Unis. Il dit donc que c'est de bonne guerre qui retire les États-Unis de cet accord.
Nous avons de retour M. Ali Haïdar. Allô, oui. On vous écoute. On vous écoute.
Allô. Oui, donc j'étais en train de dire qu'à mon sens, on a mis une vingtaine d'années pour trouver des accords et en cinq minutes, on veut en sortir. C'est toujours le même scénario. Quand vous avez une multinationale qui fait un dégât concernant l'environnement, il y en a beaucoup des exemples, hein, il y en a beaucoup énormément, en Inde, partout dans le monde, des pétroliers qui échouent, qui causent des dégâts écologiques extrêmement importants. On met des années et des années en justice avant de dédommager l'environnement ou les gens concernés. Contrairement à ça, quand c'est les multinationales qui, elles, veulent une loi ou veulent être protégées, c'est tout de suite que ça se fait. C'est toujours l'éternel problème qui revient. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que les accords de Paris sont une contrainte économique pour les pays qui veulent les respecter. si les États-Unis ne veulent pas les respecter, ça veut dire qu'ils vont avoir un avantage économique sur les autres pays. Et comme mais, Donald Trump est un businessman.
Justement, monsieur Haidara, le président Trump dit justement qu'il y a des pays comme la Chine et l'Inde qui ne respectent pas tellement ces accords et qui ont ainsi un avantage économique sur les États-Unis.
Oui, oui, mais l'Afrique, moi je suis préoccupé par l'Afrique. Nous, on a nos populations de jeunes qui s'en vont vers l'Europe parce qu'on n'a plus de ressources. Nos ressources sont pillées par des multinationales, pillées par des mafieux, pillées par des trafiquants. Il n'y a plus, la pluviométrie est déréglée à cause des conséquences du réchauffement climatique.
Merci beaucoup. Un grand merci, monsieur Haidar. On arrive au terme de cette émission. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir.
D'accord. Voilà.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.